Il y a 50 ans, j'étais au lycée, en terminale, je suis allé voir un prof pour lui parler d'un devoir et il m'a parlé de l'Évangile. C'est la première fois que je l'avais entendu et je savais, Dieu avait préparé mon cœur, je savais que j'étais pécheur devant lui, que je n'avais aucune chance d'être accepté devant Dieu ou d'aller au ciel ou d'être pardonné. Et je lui ai dit, bon, je vais essayer de faire mieux, changer certaines habitudes dans ma vie, mais j'avais déjà essayé sans beaucoup de réussite. Et comme je partageais avec Christian tout à l'heure aussi, j'étais à la recherche, je lisais des bouquins de psychologie pour que je puisse me comprendre mieux. Alors, lire Jung et Freud, je n'ai pas beaucoup mieux compris les choses. Et finalement, ce jour-là, il m'a encouragé non pas à juste faire un peu plus d'efforts pour vivre comme Dieu veut. En fait, il dirait que même si j'étais assez bon à partir de ce moment-là, ce qui ne serait certainement pas le cas, qu'est-ce que j'allais faire avec tous mes péchés passés? Et il m'a encouragé à demander à Jésus-Christ de me pardonner les péchés d'abord, et après il m'aiderait avec mes problèmes. Et ce soir-là, après une lutte intérieure de quelques heures, c'est ce que j'ai fait. J'ai plié les genoux, littéralement et figurativement, et j'ai demandé à Jésus-Christ de me pardonner. Et c'est comme ça que la nouvelle vie et la vie éternelle a commencé pour moi. Alors, c'est une joie pas seulement d'être ici, mais d'ouvrir la parole de Dieu avec vous. On va être dans le livre d'Ecclésiaste aujourd'hui. Vous pouvez regarder dans votre Bible si vous voulez, mais je vais mettre les versets à l'écran. Et je voudrais prier un verset de la Bible si vous voulez vous incliner dans la prière avec moi avant de commencer. Enseigne-moi tes voies, Éternel. Je marcherai dans ta vérité. Donne-moi un cœur simple, pas partagé, afin que je craigne ton nom. Utilise ta parole dans notre vie pour qu'on te craigne, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Si j'allais demander, qu'est-ce que vous connaissez dans le livre d'Ecclésiaste? Qu'est-ce que vous diriez? Voilà, c'est presque tout le monde pense tout de suite, effectivement. Alors, à cela. Vanité des vanités. Vanité de vanité, tout est vanité, dit l'Ecclésiaste. Beaucoup de gens qui lisent l'Ecclésiaste disent, oh, je n'aime pas trop ce livre. Il y en a qui disent, oui, je l'aime bien, mais ils pensent que c'est trop pessimiste. Dire que la vie est vaine et absurde ne me semble pas très catholique. Ce message se ressemble davantage au propos de Sartre, de Camus. En plus, l'auteur semble vouloir dire que la vie est vaine et absurde, et puisque c'est comme ça, jouissez-vous d'un bon repas, un bon verre de vin, parce que c'est tout ce qu'on peut faire. Ça ne semble pas être très chrétien, ça. Et puis, nous posons certaines questions parfois en nous demandant effectivement, la vie n'est-elle pas vaine? Par exemple, si Dieu est bon, pourquoi autant de souffrances? Ou même plus personnellement, pourquoi ma souffrance? Ou pourquoi est-ce que soit moi-même, quelqu'un d'autre que j'aime, est si malade, si longtemps? Je ne comprends pas. Ou celui ou celle que j'aime le plus est décédé. comment est-ce que je pourrais survivre? Ou je n'ai plus de boulot. Comment est-ce que je vais survivre? C'est un autre plan. Ou pourquoi les méchants sont si bien, si riches, et moi qui veux vivre pour Dieu, je suis dans la misère. On voudrait bien qu'Ecclésiaste, sage qu'il est, réponde à nos questions, mais il ne le fait pas dans ce livre. Cependant, il va écrire des propos qui sont à propos de ce qu'on vient de dire, à propos de la vanité, à propos de la vie telle qu'elle est, à propos de la vie avec Dieu. Bien, l'auteur s'appelle Ecclésiaste, c'est un titre plutôt comme prénom, qui veut dire celui qui rassemble pour enseigner. C'est pourquoi certaines traductions traduisent Ecclésiaste comme maître, ou le professeur, ou l'enseignant, ou même Kohelet, qui est la forme hébraïque de ce mot. Certes, cet auteur dit que la vie est vanité. En fait, il utilise le mot « vanité » 38 fois dans le livre, plus que toutes les fois que c'est utilisé ailleurs dans l'Ancien Testament. Et il décrit au long et au large de ce livre des exemples de ce que c'est la vanité. Et si on comprend mal ce qu'il voulait dire par vanité, on va mal interpréter le livre entier. C'est également vrai pour quelques autres concepts clés dans ce livre. On va en examiner trois pour déterminer le message central de ce livre qui contient 12 chapitres. Puis on va regarder le passage qui se trouve au centre du livre, au centre littéralement, si on compte le nombre de lettres, mais aussi au centre figurativement, c'est-à-dire l'essentiel de ce qu'il veut communiquer. D'abord, le concept de la vanité. Est-il vrai que la vie est absurde, qu'il n'y a pas de vrai bonheur? Certains pensent que c'est ce qu'Ecclésiaste dit, et d'autres écrivains non religieux l'ont dit. Sartre, par exemple, dans La Nausée, il a écrit, c'était vrai. Je le savais depuis toujours, je n'avais aucun droit d'exister. Je n'ai apparu par hasard. J'ai existé comme une pierre, une plante, un microbe. Je n'étais qu'un petit bruit sans conséquence dans l'univers. Je pensais, nous voici en train de manger et boire pour préserver notre précieuse existence et qu'il n'y a aucune, absolument aucune raison d'exister. Sartre a dit ailleurs que la vie n'a pas de sens, nous sommes nés, nous mourrons, c'est tout. Une chanteuse américaine, Faith Hill, a chanté « Le secret de la vie, c'est rien, rien du tout. » Quelqu'un d'anonyme, je ne sais pas qui l'a dit, « Nous sommes tout seuls dans cette vie qui est un film d'horreur. » Est-ce que c'est ça la vanité? Est-ce que c'est ça que Ecclésiaste voulait dire? Regardons de plus près ce mot, comme Ecclésiaste l'utilise. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs significations de ce mot. Comme des mots en français, il y en a qui ont plusieurs significations possibles. Et donc, il y a plusieurs traductions différentes du mot, si on regarde dans les traductions. Aussi, c'est un concept qui est difficile de traduire, donc d'autant plus. C'est comment est-ce qu'on va déterminer? C'est le contexte de chaque passage qui détermine quel est le sens du mot dans le contexte. Bon. Premièrement, c'est littéralement le mot veut dire buée ou vapeur. Donc on peut comprendre les trois sens figuratifs que je vais expliquer. Et il y en a même davantage. Le premier sens, plusieurs passages parmi les prophètes parlent de vaines idoles. Donc le sens là est, comme on le prend comme le sens du mot en français, vaine, absurde, sans valeur réelle, futile, illusoire. Mais en Ecclésiaste, ce sens absurde n'est jamais utilisé. Jamais. Un deuxième sens du mot, c'est éphémère, transitoire, temporaire, ce qui ne dure pas. Occasionnellement, en Ecclésiaste, le mot peut mettre l'accent sur le fait que la vie est courte et nous les hommes, les femmes, sommes très petits devant notre Créateur. Mais le troisième sens du mot vanité est le sens qui est toujours utilisé en Ecclésiaste. Pas toujours ailleurs dans l'Ancien Testament, mais en Ecclésiaste. Ce sens est douloureux et compliqué. La vie est difficile. Pas chaque moment, pas chaque instant. La vie est difficile, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas dans la vie. Elle nous frustre, elle nous déçoit. Ecclésiaste donne beaucoup d'exemples de ces déceptions et de ces frustrations. Ecclésiaste peint par des exemples un tableau de ce que c'est la vanité et pourquoi la vie est douloureuse et compliquée. En voilà quelques-uns. Premier exemple, la mort est pour tous, sage ou insensé. La mort termine la vie. Ces deux observations évoquent la réaction chez Ecclésiaste, vanité. Et il le dit plusieurs fois dans le livre. Cette vanité douloureuse est difficile à supporter. Mais la vie, c'est comme ça. Il y a peu de certitude dans la vie, mais la mort en est une. Pourtant, j'ai reconnu aussi que même sort les attend tous deux, sages et insensés. Le sage meurt bel et bien comme l'insensé. L'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Il n'a aucune autorité sur le jour de la mort. Il n'a point de remission dans ce combat. Je crois que c'est le combat pour vivre. Et je vois ce combat chez un très cher ami qui est sur un lit d'hôpital et qui est peut-être en train de mourir, mais il veut vivre. Et la méchanceté ne donne à ceux qui l'exercent, qui font beaucoup de choses pour ne pas mourir, mais il n'y a aucune échappatoire. La vie est courte, plus courte pour certains que pour d'autres, certes, et puis vous mourrez. À la mort, vous perdez tout, la vie dans le monde, votre argent, votre impact, votre influence dans le monde, votre souvenir, 2000 viendraient pour vos funérailles, puis ils rentrent au travail, à la maison après, ils mangent un bon repas, et voilà, c'est tout. Au fait, vous n'êtes qu'un souvenir. Un résumé de cet aspect de la vanité, c'est la mort est pour tous, sage et insensé. Et la mort viendra pour toi. C'est difficile à supporter ça. Ça va être un peu mieux, mais on n'est pas encore là. Deuxième aspect de la vanité, c'est l'injustice. L'injustice arrive souvent. Il donne plusieurs exemples, mais la plus grande injustice, peut-être parmi ce qu'ils disent, C'est que de bonnes choses arrivent aux méchants et que de mauvaises choses arrivent aux justes. Normalement, Dieu bénit, mais matériellement, au moins dans l'Ancien Testament, ceux qui lui étaient fidèles, selon Deutéronome 7, Deutéronome 28 et d'autres passages. Mais Dieu, il y a des exceptions. Job le dit, Ecclésiaste le dit. Dieu fait ce qu'il veut en agissant indépendamment du principe de rétribution. Le principe de rétribution, c'est que Dieu bénit les justes et il punit les méchants. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a une vanité qui se fait sur la terre. C'est qu'il y a des justes dont le sort est conforme à l'œuvre des méchants et des méchants dont le sort est conforme à l'œuvre des justes. Je dis que c'est encore là, parmi d'autres, encore là, une vanité. Et ça, c'est un verset qui est assez connu, peut-être pas autant que vanité des vanités, tout est vanité dans l'Ecclésiaste. J'ai encore vu sur le soleil que la course n'est pas au plus agile, ni la guerre au plus vaillant, ni le pain au plus riche, au plus sage, ni la richesse au plus intelligent, ni la faveur au plus savant, car les circonstances bonnes ou mauvaises surviennent pour eux tous. Et encore, pour parler de l'injustice, voici encore ce que j'ai vu sous le soleil: à la place du droit, il y a la méchanceté. À la place de la justice, là est la méchanceté. De bonnes choses arrivent aux mauvais, de mauvaises choses arrivent aux bons. Pour résumer, ce deuxième aspect de la vanité, c'est l'injustice. L'injustice est douloureuse et nous fait poser des questions. D'ailleurs, tous subissent l'injustice, pas simplement ceux qui n'aiment pas Dieu. Un troisième exemple de vanité, c'est l'incertitude et l'impossibilité de contrôler ce qui se passe. Enfin, c'est deux choses différentes, mais il me semble qu'ils sont quand même un peu liés. C'est l'incertitude et l'impossibilité de contrôler ce qui se passe. La vie est vaine, selon Ecclésiaste, parce que l'homme ne peut pas contrôler les événements de sa vie. La vie est incertaine. Surtout, il ne sait pas ce qui lui arrivera, il le dit plusieurs fois, ni quels seront les fruits de ses efforts pendant sa vie, ou même le fruit de ses efforts après sa mort. Ni il ne connaît pas non plus le moment de sa mort. L'homme n'est pas maître de son destin. Il semble que le temps et le hasard règnent, ni Dieu ni l'homme. En effet, l'homme ne sait point ce qui arrivera. Qui donc lui annoncera comment cela arrivera? Vraiment personne, ce n'est pas possible. L'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir et il n'a aucune autorité sur le jour de sa mort. Tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre, comme tu ne connais point le mouvement de vent ni de l'embryon dans le ventre de la femme enceinte. Tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre, de ce que tu, les efforts, les choses que vous faites dans la vie, sont également bons. Je vous invite à vous lever, tous. Voilà, les mêmes choses. Côté, alors tournez comme ça. Allez-y, n'hésitez pas, continuez. Et maintenant dans l'autre sens. Voilà, merci, vous pouvez vous asseoir. Vous venez de dépenser beaucoup d'énergie pour aller nulle part. Et on ne sait pas si ce qu'on fait a... si ça va accomplir quelque chose. Il n'y a que trois certitudes. Un, l'incertitude. Deux, on ne peut pas échapper à la condition humaine, qui est la vanité et la mort. Si nous pouvions atteindre la sagesse, Ecclésiaste parle beaucoup de sagesse, nous pourrions peut-être mieux contrôler notre vie. Mais un aspect de vanité, c'est qu'on ne peut pas atteindre la sagesse autant qu'on voudrait. Résumé de cet aspect de vanité, l'incertitude et l'impossibilité de contrôler ce qui se passe. Ces frustrations-là, l'incertitude, manque de contrôle, ne rendent pas la vie futile ou absurde, ou sans valeur, mais plutôt frustrante et énigmatique. Et cela est vrai pour tous, non pas simplement pour ceux qui se moquent de Dieu. Un dernier exemple de vanité, c'est le péché. Ah oui, Colette décrit la vie telle qu'elle est depuis la chute. Il se rend compte que le monde n'est pas comme Dieu l'a créé. Le péché infiltre le monde à tous les niveaux, soit le péché des autres, soit notre propre péché. L'homme pécheur est entouré de pécheurs. Par son péché, il inflige la souffrance aux autres, mais il en est également la victime. Certes, il n'y a sur la terre point d'homme qui fasse le bien et qui ne pêche pas. Voici un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, le cœur des humains est rempli de mal, et la démence est dans leur cœur pendant la vie. Le péché d'un homme est vanité. Le problème fondamental de l'homme, c'est l'homme. Comme un pauvre personnage dans un dessin animé a dit, « Nous avons rencontré l'ennemi, et c'est nous. » Résumé de cet aspect de la vanité, le péché d'un homme lui-même ou le péché des autres. Le péché rend la vie douloureuse et compliquée, en un mot, vanité. La réalité de ces quatre expressions de la vanité que vous voyez ne rend pas la vie futile, sans valeur, vide, mais plutôt douloureuse et énigmatique. Sans être loin du sens de vanité du tout, on pourrait simplement dire que la vie est difficile. La vanité, c'est les difficultés dans la vie qui nous troublent. Et la vanité n'est pas simplement pour ceux qui rejettent Dieu, mais tous la subissent. Vous et moi, nous connaissons dans la vie la certitude de la mort un jour, l'injustice, l'incertitude, l'impossibilité de contrôler ce qui se passe et le péché. C'est la condition humaine. C'est la vanité. Et la vanité rend la vie douloureuse et énigmatique, en un mot difficile. Parfois, je me demande pourquoi, pour mes deux amis qui subissent un cancer ou ont subi un cancer des poumons, le Seigneur a pris l'un dans une période de 2 mois, à l'âge de 55 ans, il avait encore les enfants à la maison, et l'autre reste en vie après 8 ans de cancer de poumons. C'est, Dieu a certainement gardé en vie, mais maintenant il souffre énormément sur le plan physique. Je me demande pourquoi un cher frère que je connais subit des mensonges et des critiques dans son travail par quelqu'un qui veut sa place. Et ce frère travaille consciencieusement. Et dans ce cas, le méchant a gagné. Je me demande pourquoi je suis relativement riche et pourquoi, comme un ami vient de m'écrire, quelqu'un qu'on est au Haïti, une famille pauvre, très pauvre, perd à la famine qui est là en ce moment, leur seule ressource qui est une vache, parce qu'ils n'avaient plus rien, elle n'avait plus rien à manger. La vanité. La vie, c'est comme ça. Un deuxième concept clé, après la vanité, c'est sous le soleil. Vous vous rappelez cette expression dans le livre d'Ecclésiaste? Sous le soleil. Cette expression se trouve 29 fois dans notre livre. Beaucoup de commentateurs prétendent que la vie sous le soleil et les vanités sont mises en opposition à la vie de la foi. Mais au contraire, la vie sous le soleil n'est pas la vie sans Dieu, dirigée par la raison humaine, mais la vie sous le soleil, c'est le sort de chaque homme sur la terre. Nous vivons tous sous le soleil. Qu'on craigne Dieu ou non, sous le soleil, comme la vanité décrit la condition humaine, la vie depuis la chute avec ses conséquences, la vie telle qu'elle est. Tout homme vit sous le soleil, c'est la vie sur la terre. Si nous vivons sous le soleil, c'est le cas, si la vie est vaine, douloureuse et compliquée, et c'est le cas, quoi faire? C'est pour ça que j'aurais pu donner un titre à ce message, Vanité la vanité. Quoi faire? Ou vanité des vanités. Et alors? Est-ce que c'est tout ce que Ecclésiaste veut nous dire? Non! Pas du tout! Et heureusement, il affirme comment nous pourrons vivre sous le soleil et comment nous pouvons trouver le bonheur dans cette vie difficile. Un paradoxe. Mais oui, c'est possible. Cela nous amène au troisième concept clé, la crainte de Dieu. Dans cinq passages, Ecclésiaste encourage le lecteur de craindre Dieu. Souvent, on traduit l'expression craindre Dieu par, enfin, soit on traduit craindre Dieu, soit révérer Dieu, soit respecter Dieu. Mais quelle est l'idée derrière ces traductions qui sont bonnes, mais justes? D'abord, craindre Dieu n'est pas être terrifié de Dieu. C'est plutôt aimer, respecter, dépendre de Dieu. On pourrait dire qu'il y a deux types de crainte. Vous voyez Vincent qui est assis au premier rang comme un sage. Il a l'air très sage, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Bon. Mais et c'était peut-être pas toujours le cas. Supposons quand il avait 5 ans, qu'il y avait une règle à la maison, et cette règle, parmi d'autres, était « Quand papa n'est pas là, tu ne joues pas avec ses outils. » Mais un jour, quand papa est au travail, Vincent est au garage, il regarde les outils, et il commence à jouer. Et il s'amuse bien, et puis maman arrive. Catastrophe. Et elle dit ce que toute bonne maman dirait, attends jusqu'à ce que ton père revienne ce soir. Alors, si son père était méchant, alcoolique, violent, il pourrait craindre son père parce qu'il avait déjà reçu des claques et il a peur d'en recevoir encore. Mais ce n'est pas ça, la crainte de Dieu. C'est, mais si son père n'était pas comme ça, mais plutôt bon, juste, qui aime son fils, qui donnerait une punition, peut-être bien, mais qui serait juste, il craindrait son père aussi. Il aurait peur aussi de le décevoir. Mais il sait que son père l'aime. Et c'est plutôt une illustration de la crainte de Dieu, de respecter, aimer et dépendre de Dieu qui est un père bon, plein d'amour et juste. Comment est-ce qu'on pourrait définir craindre Dieu? Il me semble, j'ai passé beaucoup de temps pour chercher une définition qui exprime le concept, mais il me semble le meilleur que je peux faire, c'est vivre sous le regard de Dieu. Vivre sous le regard de Dieu. Si je crains Dieu, je reconnais que Dieu est Dieu et pas moi. Je reconnais sa puissance, sa sainteté, son amour et mon besoin de lui. Si je crains Dieu, j'ai une confiance respectueuse, mais aussi personnelle, dans le Dieu souverain qui contrôle tout. Si je crains Dieu, je reconnais que Dieu est à l'origine de tout l'univers et au centre de tout. Et je choisis Dieu comme point de départ pour ma vie, ainsi comme le point de référence pour tout. Si je crains Dieu, je l'inclus en tout projet, en toute action, en toute réflexion. Dans le langage du Nouveau Testament, celui qui craint Dieu suit Jésus, ou aime Dieu et son prochain, ou il fixe ses regards sur Jésus. Il met Christ au centre de sa vie. Craindre Dieu, c'est vivre dans la présence de Dieu, vivre sous le regard de Dieu. Et cette crainte de Dieu, c'est le seul moyen d'avoir le bonheur et la joie. Cependant, quoi que le pécheur fasse 100 fois le mal et y prolonge ses jours, moi je reconnais tout de même que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte en sa présence. Et il ne prolongera pas. Est-ce que je pédale dans la smoule? Je reconnais tout de même que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont la crainte en sa présence et il ne prolongera pas ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas de crainte en présence de Dieu. En Ecclésiaste, le concept de la crainte de Dieu, il donne plusieurs exemples, plusieurs aspects. Si on craint Dieu, ces choses vont être vraies pour nous. Premièrement, premier aspect, c'est que reconnaître que Dieu donne les joies de cette vie. Vous vous rappelez les passages, et il y en a 5, je crois, qui parlent de manger et de boire. Mais ces joies ne sont pas charnelles. Et tout ce qu'il y a à faire dans la vie, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. Mais sont un don de Dieu. J'aime bien un bon lasagne. Merci Seigneur. Voici ce que j'ai vu. C'est déjà bien beau pour l'homme de manger, de boire, de voir le bonheur au milieu de toute la peine qu'il se donne sous le soleil pendant le nombre de jours de vie que Dieu lui a donné, car c'est là sa part. Il va un pas de plus. D'ailleurs, Pour tout homme à qui Dieu a donné richesse et ressources, et qui laisse maître de s'en nouir, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de sa peine, c'est là un don de Dieu. Ecclésiaste fait l'éloge de la joie qui vient de Dieu. On était en vacances en famille. Nos deux aînés, c'est des jumelles, étaient au lycée à l'époque. Et j'avais l'idée géniale de lire paragraphe par paragraphe, jour après jour, avec la famille, le livre d'Ecclésiaste. Il y avait quelques explications à faire. Et on a lu un de ces passages sur la joie, le manger et le boire. Et une des filles a dit, mais quelqu'un qui n'aime pas Dieu peut manger une bonne lasagne et être content. Quelqu'un qui aime Dieu et quelqu'un qui n'aime pas Dieu peuvent tous les deux être heureux avec ça. Alors, et l'autre jumelle lui répond, oui, c'est vrai. Mais après le repas, l'un n'a rien et l'autre a Dieu. Un deuxième aspect de la crainte de Dieu, c'est de reconnaître qu'il y aura un jugement. C'est vrai que Ecclésiaste exhorte les jeunes à suivre les voies de leur cœur. C'est des versets que les jeunes lire à leurs parents. Mais dans le même verset, « Mais sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. » Donc, on ne fait pas n'importe quoi. Crains Dieu, observe ses commandements, c'est là tout l'homme. Dieu fera passer toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Un troisième aspect de la crainte de Dieu, c'est de reconnaître qu'il vaut la peine de rechercher la sagesse ou de vivre de manière sage, même s'il y a plein de choses qu'on ne comprend pas dans la vie, parce que Dieu est quand même à l'œuvre. Hop là. Qui est comme le sage? Ça vaut la peine de rechercher. Qui connaît l'explication des choses? Il peut expliquer certaines choses au moins. La sagesse de l'homme éclaire son visage et la sévérité de sa face est changée. La sagesse vaut mieux que les armes du combat. Même si la sagesse ne nous protège pas contre les malheurs, contre le tracas et les tourments de la vie, ça vaut la peine, dit Ecclésiaste, de vivre selon la sagesse. Un quatrième aspect de la craindre Dieu, c'est de reconnaître que Dieu est souverain, qui contrôle tout. Ce n'est pas moi. Il est le maître. Pas moi. J'ai oublié de noter la référence. Ça a lieu deux fois dans le livre. Qui peut redresser ce que Dieu a courbé? Pas possible. C'est un des thèmes, et on pourrait en parler longuement, dans ce livre, la souveraineté de Dieu, Dieu est maître et il contrôle tout. Un cinquième aspect de craindre Dieu, c'est obéir au commandement de Dieu. Et il ne parle que de l'obéissance une seule fois dans le livre. Mais là où il en parle, c'est très important. Il dit, voici la conclusion. Les deux derniers versets du livre. Crains Dieu, observe ses commandements. C'est là toute la responsabilité de chaque homme. Quant à la recommandation de craindre Dieu au milieu des difficultés et des injustices présentes, elle est comme le regard jeté toujours à nouveau sur la boussole qui peut seule maintenir le croyant dans la route de sagesse. Les deux derniers versets du livre, je les relis, c'est la conclusion. Écoutons la conclusion de tout le discours. Donc, on sait que c'est l'idée principale parce qu'il nous le dit. Crains Dieu et observe ses commandements. Traduction d'une seconde dit, c'est là tout l'homme. C'est un peu, hein? Ça veut dire que c'est la totalité de ce que nous devons faire, c'est craindre Dieu, observer ses commandements, mais aussi que c'est pour chaque homme ou femme. Car Dieu fera passer toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Crains Dieu et tu manifesteras cette crainte de Dieu dans l'obéissance à ses commandements. Maintenant qu'on a vu les trois concepts clés, enfin, peut-être pas les trois, mais au moins trois concepts clés de la vanité sous le soleil et craindre Dieu, on peut résumer le thème et le message central du livre entier. Le thème n'est pas, même si on parle, non, le thème n'est pas la futilité de la vie, mais plutôt comment vivre pendant cette vie difficile, pendant cette vie douloureuse et compliquée. Le message central du livre, c'est que la crainte de Dieu est la solution au problème de la vanité. La vie peut être difficile et pleine de contradictions et de problèmes, mais pour ceux qui craignent Dieu, la justice et la bonté de Dieu prévaudront en fin de compte, ainsi que la joie de se souvenir de Dieu constamment. La crainte de Dieu, c'est vivre sous le regard de Dieu. C'est dans tous ses aspects. Au sein d'un monde qui habite à l'ombre du mal, de l'injustice, de la souffrance et de la mort, l'Ecclésiaste invite tout être humain à vivre aujourd'hui pleinement sa vie sous le regard de Dieu vivant et vrai, avec sérieux, intégrité et joie. Avant de terminer, je voudrais regarder avec vous le passage central du livre. Il tombe exactement au milieu du livre, et pour un juif, souvent l'idée centrale d'un écrit était au milieu, pas forcément au début ou à la fin. Et on va lire ce passage central deux fois, c'est en Ecclésiaste 6, je vais le projeter pour vous. Mais on va le lire deux fois. La première fois, on va avoir les yeux de la vanité quand on le lit. Mais la deuxième fois quand on le lit, on va avoir les yeux de la crainte de Dieu. Et on verra avec cette deuxième lecture la réaction que Dieu veut et que Coëlette voulait communiquer. Il était, je crois, Ecclésiaste, très intentionnellement ambigu dans ce passage pour que, enfin, vous verrez ce que je veux dire. Il était ambigu, mais son message va pas tout de suite apparaître clair, mais à la fin, je crois que oui. Bon, le passage, c'est Ecclésiaste 6, versets 7 à 12. On va lire verset par verset avec quelques commentaires. Avec les yeux de la vanité, toute la peine pour l'homme et pour sa bouche, et cependant son gosier n'est pas rempli. L'image, là, c'est l'image de l'insatisfaction. La vanité, c'est ne pas être satisfait dû à la complexité et aux douleurs de la vie. Verset 8. Que reste-t-il au sage plus qu'à l'insensé? Quel avantage à l'homme humble qui sait conduire devant les vivants? À première vue, il semble que la réponse serait « aucun avantage ». Verset 9. « Mieux vaut voir de ses yeux que de laisser aller son imagination. » C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. L'homme imagine beaucoup de manières de vivre, beaucoup de philosophies de vie. Y en a-t-il de valables? Verset 10. Ce qui existe a déjà été appelé par son nom. Et on sait ce que l'homme, il ne peut contester avec plus puissant que lui. On sait ce que l'homme, il est pécheur. Il est petit devant Dieu. L'homme ne peut pas contrôler les événements de sa vie. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On ne peut pas trouver une nouvelle réponse aux problèmes de la vie. Vaut-il la peine de vivre? Verset 11, quand il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de vanité. Comme on a vu hier, Théocentre, ce n'est pas à la sagesse qu'on est censé prendre plaisir, mais c'est à la manifestation de ses pensées. Les bavards, pas tout le temps. Et il y en a qui me dit oui, voilà la sagesse, mais finalement, ce que les hommes peuvent proposer, il n'y a pas grand-chose. Verset 12 a deux questions. Qui donc sait ce qui est bon pour l'homme pendant la vie, pendant le nombre de jours de sa vaine existence qu'il mène comme un ombre? Est-ce possible pour un homme de savoir comment vivre? La vie a tellement de questions sans réponse et tellement de tracas et de troubles. Encore verset 12, « Et qui peut annoncer à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil ?» Aucun homme peut le faire. L'homme ne sait pas quel sera le fruit de ses efforts. Maintenant, on va reculer, on va relire le passage avec les yeux de la crainte de Dieu. Verset 7. Toute la peine pour l'homme est pour sa bouche, et cependant son gosier n'est pas rempli. Mais, ce n'est pas dit, mais je crois que Ecclésiaste veut nous communiquer, Dieu satisfait pleinement. Il est notre satisfaction. C'est comme Jésus a dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Verset 8. Que reste-t-il au sage plus qu'à l'insensé? Quel avantage à l'homme humble qui sait se conduire? Oui, il faut mettre se conduire devant les vivants. La sagesse a beaucoup d'avantages. Colette va passer 4 chapitres d'en parler, les chapitres 7 à 10. Et surtout, le sage craint Dieu. C'est le commencement de la sagesse. Celui qui ne craint pas Dieu n'a rien. Celui qui craint Dieu a tout. Dieu est ma joie. Dieu est mon trésor, plus que les bonnes circonstances. Ils apportent de la joie. C'est presque terminé. Mieux vaut voir, verset 9, de ses yeux que de laisser aller son imagination. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Si on vit sous le regard de Dieu, si l'on fixe les yeux sur Jésus, on ne fait pas n'importe quoi dans la vie. Comme a dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, « Rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, courons avec persévérance l'épreuve. » L'épreuve est difficile. L'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus. Autrement dit, en craignant Dieu, qui est l'auteur de la foi. Verset 10. Ce qui existe a déjà été appelé par son nom. Il n'y a pas de nouvelle solution sur comment vivre. Il n'y a que la solution qui est Dieu. Toujours la même solution. Dieu est la solution. On sait ce qu'est l'homme. Oui. Nous savons que l'homme est pécheur. Oui, nous péchons. Oui, nous sommes fragiles. Mais grâce à Jésus-Christ, nous sommes pardonnés et nous avons la vie éternelle. Nous connaissons Dieu. Il ne peut contester avec plus puissant que lui. Dieu est tout puissant. Dieu contrôle tout. Et ça, le fait que lui contrôle tout, c'est une consolation pour moi. Quand il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de vanité. Qu'en reste-t-il à l'homme? Qu'est-ce qui reste? Dieu! C'est Dieu qui reste. Au milieu des difficultés de la vie, nous avons Dieu. Dieu est la réponse à la question. Verset 12. Qui donc sait ce qui est bon pour l'homme pendant sa vie, pendant le nombre de jours de sa vaine existence qu'il mène comme un ombre? Même réponse. Dieu sait. Dieu sait ce qui est le mieux pour moi, pour nous. Qui peut annoncer à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil? Encore verset 12. C'est toujours la même réponse. Dieu! Et ça, ce n'est pas une affirmation que Dieu sait ce qui se passera après la mort, même si, bien sûr, il sait. Mais plutôt que Dieu seul sait quel sera le fruit de mes efforts après ma vie, le fruit de mes activités, de mes paroles, de ma vie. Oui, en conclusion, on peut dire juste une ou deux phrases. On pourrait dire, oui, effectivement, Dieu est la réponse à tout, à la vanité de la vie. On pourrait penser, ah oui, simple, simpliste ça. Oui, simple, mais profond. La bonté et la justice de Dieu ne nous exemptent pas des difficultés de la vie, la vanité, mais Dieu est notre joie, notre bonheur. Craignons-le.